Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Mama Édition.
Chez Mama Édition, nous publions depuis plus de 20 ans des livres audacieux. Parcours de vie aux frontières de l'extraordinaire, médecine alternative, témoignages, spiritualité, des ouvrages de référence pour aujourd'hui et pour demain.
Qui n'a jamais rêvé de communiquer avec les animaux? Eh bien, c'est possible! Pour percer ce mystère, Peggy Reboul, l'autrice de Consciences animales, nous reçoit chez elle. Dans un premier temps, on va échanger avec Peggy sur son parcours, sur la communication animale. Ensuite, on la suit sur sa terre enchantée, à la rencontre de Pablo, Paloma, Andalus, Kélous, Baraka, Yule. Je vous souhaite une belle écoute. Profitez bien de ce moment un peu magique, dans la nature, au calme, en compagnie du vivant, en compagnie des êtres qui peuplent cette terre. Alors, on est à côté de Nîmes. Sur un petit promontoire, est-ce qu'on peut appeler ça un promontoire, une colline?
Ici, on appelle ça un puèche.
Un puèche.
On est sur le puèche Roussin.
Le puèche Roussin qui domine toute une vallée où on aperçoit le Mont Ventoux, on aperçoit aussi le Pic Saint-Loup, l'Ortus, les Alpilles, oui. Les Alpes au loin. Donc un endroit merveilleux qu'on a visité ensemble. On est chez Peggy Reboul pour son livre « Conscience animale ». Bonjour Peggy.
Bonjour Corinne.
Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, nous expliquer d'où tu viens, de quelle planète tu viens?
Oui, mais voilà. Quand on me pose cette question, je suis toujours très coincée parce que je voudrais qu'on m'explique sur quel plan dois-je développer.
Le plan que tu as envie, et moi j'irai le plus subtil possible. Alors, on y va, d'accord. On rentre dans le cœur du sujet.
Carrément,
tout de suite.
Tu oui, on y va. Vraiment. Bon. Alors j'espère que je ne vais pas faire peur. Mais déjà, je me considère comme une enfant de la Terre. Pour moi, ça, c'est très, très important. Et des fois, j'ai envie de dire, mais allez, enfant de la Terre, nous sommes plusieurs, réveillons-nous. Donc, je me sens profondément en lien avec elle et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, puisque si tu veux que je t'explique qui je suis sur un plan subtil, j'ai pris connaissance de ça plutôt tardivement, de ce lien que j'avais même avec l'intra-terre. Donc l'intra-terre, ça suppose que l'on croit à une terre creuse, ou en tout cas à une forme de vie à l'intérieur même de la terre, dans une autre dimension évidemment. Et j'ai eu plusieurs contacts en fait avec ces êtres de l'intra-terre. Voilà. Et notamment dans mes soins, dans mes communications, depuis longtemps j'entendais ceci de la part de mes guides, « Connecte-toi aux énergies de Shambhala ». Et je suis allée voir un petit peu ce qu'était Shambhala. Et c'est là que j'ai appris que c'était, entre autres, une cité de l'Agartha, se situant voilà, dans l'intra-terre, ce qu'on appelle l'intra-terre. Et justement, là, dans le deuxième ouvrage que je suis en train d'écrire, je vais développer tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais de Shambhala. Mais bon, c'est la surprise, alors je ne vais pas trop en parler là cette fois.
Non, on va attendre le deuxième livre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu étais médium? On peut dire que tu es médium?
Oui, et en même temps, ce terme, je le trouve un peu pas galvaudé, mais la médiumnité, au fond, elle existe en chacun d'entre nous. Donc, je me sens pas atypique par cette médiumnité. Mais c'est vrai que comme beaucoup, beaucoup d'entre nous, j'avais ces connexions avec le subtil et le monde invisible plus jeune. Bon, pour moi, je pensais que c'était quelque chose de totalement naturel, jusqu'à ce que je me sente un peu mise sur le banc et je me sentais très différente en fait au milieu des autres enfants. Et puis quand je voyais certaines choses et que j'en parlais, ma mère me disait, écoutez, elle me disait, mais écoute, je vois ce que tu vois, je comprends. Hein. Mais n'en parle pas parce qu'on est dans un monde où ça n'intéresse pas tout le monde et garde ça pour toi. Et petit à petit, quand j'ai compris que ces capacités, enfin ces capacités naturelles, hein, me mettaient un petit peu... me permettaient pas de rentrer en relation avec le monde... que je côtoyais, ben j'ai fermé les portes vers l'âge de 10 ans à peu près.
Tu étais déjà en lien avec les animaux?
Oui, j'étais en lien avec les animaux, mais sans conscience, pas avec la même conscience d'aujourd'hui. J'avais vraiment l'impression d'être compris d'eux. Bon, c'était aussi un refuge et j'avais beaucoup de difficultés à m'adapter. Alors peut-être aussi parce que justement je sentais cette reliance à la terre, à l'intra-terre inconsciemment, et j'avais du mal à comprendre comment l'humain fonctionne. Et c'est les animaux qui m'ont vraiment beaucoup aidée et soutenue en fait, parce que j'étais une enfant triste en fait, très triste.
Ton parcours, donc tu as été vers l'art. C'est l'art, dans l'art dans lequel tu t'exprimais le mieux à cette époque-là ?
Eh bien oui, tout à fait. Très très vite, c'est l'art qui m'est apparu un peu une porte de sortie où j'avais cette possibilité de... C'était un peu ma thérapie finalement. Et c'était une occasion pour moi de faire passer des messages à travers l'art. Et justement, cette notion toute petite qui m'habitait d'interdépendance avec le monde, avec les êtres, avec les animaux aussi, cette notion de vacuité, donc la photographie, la peinture, tout ça, ça ont été des médiums pour moi intéressants en fait. Et puis, très honnêtement, ça m'a permis d'évacuer aussi un mal-être.
Ce mal-être, il a continué à se déployer dans ta vie adulte, et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était le déclic ?
Alors oui, en fait, mon corps m'a donné des signaux de plus en plus et très vite, j'ai été atteinte de ce qu'on appelle la narcolepsie et cataplexie. Donc la narcolepsie, c'est une maladie qui c'est une maladie du sommeil et j'avais tendance à m'endormir subitement, comme ça, n'importe où, n'importe quand. Et au fond, c'était une fuite. Et... En plus de la narcolepsie, il y avait aussi la cataplexie où, quand j'avais des émotions vives, par exemple, je me mettais à rigoler, paf, je tombais en atonie musculaire. Mes muscles ne me soutenaient plus et donc je tombais par terre. Voilà. Donc j'ai été mise sous traitement médicamenteux assez lourd. Et puis j'ai essayé de continuer ma vie comme un petit soldat, du mieux que je le pouvais. Et puis j'ai aussi essayé de rentrer dans un moule. Puis alors un gros moule, puisque j'ai quand même passé 20 ans dans l'éducation nationale. Et là, j'avoue, c'est très long. Je m'étais fixée 10 ans après une école d'art. Hein. Donc j'ai quand même fait les arts déco à Strasbourg, j'ai adoré. Et puis en voyant tous mes amis sortir de cette école et avoir de grandes difficultés à vivre en tant qu'artiste plasticien ou peintre, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve une solution pour avoir un métier alimentaire qui me laisse quand même du temps pour créer. Donc j'étais devenue professeure d'art plastique, voilà, pendant 20 ans et j'avais ma pratique artistique à côté. Et puis ensuite, j'ai voulu faire un petit peu comme tout le monde et rentrer dans une relation de couple et m'installer avec quelqu'un. Puis j'ai pas choisi j'ai du mal à dire que je n'ai pas choisi la bonne personne parce que au fond c'est toujours la bonne personne. Hein, les personnes qu'on rencontre, c'est juste, ça nous permet d'expérimenter, de grandir, d'évoluer. Donc en tout cas, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai passé un certain nombre d'années. Et je ne faisais que répéter finalement un schéma et cette personne ressemblait un peu à mon père en étant un peu psychomaniaco-dépressif, voilà. Et je me suis confrontée à quelque chose d'un peu douloureux, en plus de mon métier qui devenait aussi assez pénible pour moi, jusqu'à mon AVC, en fait à 40 ans, voilà.
Donc tu as eu un AVC ? Et t'es restée paralysée ?
Alors non, parce que c'est un AVC ischémique pariétal gauche qui en fait touche le langage et la mémoire. Et pour la petite anecdote, j'ai toujours beaucoup eu d'angoisse face à mon ignorance. Et j'avais des bouffées d'angoisse quand je rentrais dans les librairies en voyant tous ces livres et en me disant oh, « tout ce que je ne connais pas ». Et j'avais même un complexe d'infériorité, mais c'était terrible. Donc j'étais boulimique de savoir, de lecture, c'était de la boulimie. Et jusqu'à ce que je fasse cet AVC, et là, reset. Donc tout ce que j'avais appris pendant 40 ans a disparu. J'étais férue d'histoire de l'art, j'avais tout oublié, plus rien. Il a fallu que je réapprenne à lire... Parce qu'au départ, je voyais des mots qui formaient des phrases, puis des phrases qui formaient des textes, et pour moi, les textes n'avaient ni queue ni tête. Donc, c'était au départ, donc j'ai perdu l'usage de la parole, c'est revenu très vite, mais avec une certaine incohérence. Et parfois, j'avais totalement conscience que ce que je pensais n'était pas en adéquation avec ce que je disais, que ma bouche disait tout autre chose. Donc, il a fallu que je me réadapte. Et là, les animaux m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue. Vraiment.
Comment tu vivais ça ? T'es dans un état d'acceptation, d'angoisse, en fait ?
Alors, en tout début, c'était angoissant, parce que je m'étais dit, mais est-ce que je vais rester comme ça ? Et j'avais l'impression d'être devenue bête. Et j'ai vu que je pouvais progresser, et puis on m'a un petit peu aidée aussi pour restaurer la plasticité du cerveau, et en m'expliquant un peu ce qui se passait dans mon cerveau, j'ai compris que ça irait de mieux en mieux. Et ce qui était intéressant, c'est que comme le cerveau gauche a disjoncté, hein, je peux dire ça comme ça, j'ai vraiment compensé avec mon cerveau droit. Et c'est avec le cerveau droit aussi qu'on se met en lien avec le vivant. C'est tout ce potentiel intuitif qui est là dans ce cerveau droit. Donc j'ai passé du temps à beaucoup dormir, puis aussi à beaucoup rêver et à m'émerveiller de tout ce que j'avais autour de moi. Ça m'a fait prendre conscience que c'était important de revenir dans l'instant présent et d'être au lieu de faire. Et ça, c'était la grande leçon que j'en ai tirée. Arrêter d'être dans l'action tout le temps, de faire. Et là, j'ai appris à être, à respirer, à m'arrêter. Et du coup, je me suis reconnectée, en fait, à moi, à mon essence, à mon âme, à mes rêves d'enfant. Et de là, tout est reparti à zéro, mais c'était merveilleux. Donc je dis aujourd'hui, le plus beau cadeau de ma vie, en fait, c'est cet AVC.
C'était ta renaissance.
Complètement.
Et les animaux, donc, ils étaient déjà proches de toi. Enfin, tu en avais déjà autour de toi.
Les animaux étaient déjà très proches de moi. Et je montais à cheval aussi. Et j'avais une jument qui n'était pas la mienne, mais avec laquelle je me sentais vraiment très proche, que je venais de perdre juste avant l'AVC.
Iskra, elle s'appelait, ouais.
Elle est toujours là. Elle est toujours là.
Ouais, très présente. Ouais. Et ouais, donc je pleure d'émotion en pensant à cette jument que j'ai perdue. Voilà, très très proche de cet AVC là, la même année. Et j'ai erré comme ça, me demander ce que je pouvais bien faire. Et j'ai rencontré une personne qui habitait pas très loin de chez moi, qui avait un centre équestre. Je lui ai proposé mon aide. Et elle n'avait pas le temps pour s'occuper en fait de son cheval. Et je me suis occupée de son cheval. Et puis là, je me suis remise en lien avec les chevaux. Et tout est parti de là.
Et c'est beau, c'est ouais. Beau. T'as recommencé ta vie à partir des chevaux.
Ouais, des chevaux. Mes chats étaient très présents aussi. Et puis ensuite, après, est venu très très vite ce lien à la terre, cette reconnexion à la terre. Et je me suis formée auprès de Pierre Rabhi et auprès de Steve Reed en permaculture et en agroécologie. Et là, je me suis reconnectée à mon rêve d'enfant et je me suis dit, en fait, je veux être fermière. Je veux être au contact des animaux et vivre de la terre et cultiver, voir pousser, planter des graines, les voir sortir de terre et pouvoir me nourrir de ce que je produis. Ouais. Donc j'en suis pas loin aujourd'hui, je suis contente.
Oui, c'est vrai, avec la permaculture que tu vas faire. Et comment ça s'est passé, ta rencontre avec la communication animale ? Parce que intuitivement, toi tu parlais avec tes animaux, j'imagine, mais comment tu as eu un mentor, quelqu'un?
Alors oui, j'ai eu un mentor, je peux dire ça comme ça. J'ai d'abord connu Anna Evans et puis ça l'a pas trop fait, en tout cas pas avec moi. Et j'avais besoin d'une approche beaucoup plus souple, plus intuitive, plus... voilà... peut-être une approche peut-être moins sérieuse, plus légère. Et là, j'ai connu en Ariège Florence Emeline Lombardini, que j'appelle la fée d'Ariège et que je considère comme mon mentor. Et c'est grâce à elle que j'ai retrouvé ses capacités naturelles en moi. Et grâce à elle aussi que je me suis dévoilée et dénudée, en fait, de chacune de mes zones d'ombre, blessures, voilà. Et même encore aujourd'hui, parce que aujourd'hui, bon, je considère que c'est une amie, c'est une personne que j'apprécie énormément et que je ne cesse de recommander, d'ailleurs. Et chaque fois que je la vois, il y a toujours un petit quelque chose qu'elle me dit qui me fait grandir, voilà.
Oui, parce que dans ton livre, tu parles vraiment de l'importance d'aller chercher au fond de soi sa verticalité, son amour, l'amour de soi.
Oui, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que tu peux pas, j'ai pris conscience que tu ne peux pas rentrer en communication avec l'autre, dans la justesse, si toi-même tu n'es pas en lien avec amour, avec ton être. Voilà. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi avant d'aller vers l'autre. Si on veut y aller d'une manière équilibrée, juste et authentique, en fait. Et c'est pour ça que je fais très attention à ça aujourd'hui dans mon enseignement, d'amener les gens vers cette reconnaissance de cet amour divin qu'on a en soi et d'aller retrouver le maître en soi et pour évacuer en fait ces blessures d'illégitimité qui sont très présentes en chacun de nous. L'ego, bien sûr, évidemment. Tout ça, voilà.
Alors, quelles sont tes clés de travail de la méditation ? Comment ça s'est passé ton cheminement ? Il a été long ?
Alors, j'ai toujours... déjà, j'ai pris refuge dans le bouddhisme il y a très longtemps. Et toute petite, j'étais très portée vers l'Inde et ses religions. Donc, j'ai commencé aussi à prendre l'hindi, le tamoul, pour mieux connaître. Et à me diriger vers l'hindouisme, j'ai vu que c'était pas ça, et très vite j'ai vu que le bouddhisme était une philosophie en fait qui me portait, et donc j'ai beaucoup médité. C'est vrai que depuis toute jeune j'ai quand même beaucoup médité, et je continue encore évidemment. Ensuite j'ai mes pratiques énergétiques quotidiennes pour vérifier l'alignement de mes chakras. Je m'aligne de deux façons, c'est-à-dire à la terre et au ciel, et je m'aligne autant que faire se peut à mon âme et au désir de mon âme. Il y a cet alignement-là qui est important, être le plus en congruence. Voilà. Alors bien sûr, comme tout un chacun, j'ai mes dysfonctionnements, mes incohérences d'humain, etc. Mais j'essaye d'en prendre conscience et j'en souris et je ne me juge plus non plus pour ces incohérences-là. Je les accueille.
Comment ça s'est passé ta rencontre avec Réa ? Réa, c'est le nom de ta association.
Oui.
Et c'est elle un peu le point de départ de ta vie.
Oui, tout à fait. Quand j'ai eu mon AVC, j'ai arrêté de travailler dans l'éducation nationale un certain temps et puis j'ai demandé un congé de reconversion. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire que je passe du temps avec les animaux et notamment les chevaux ? Donc j'ai trouvé le prétexte de faire une formation en conduite, gestion d'exploitation hippique, dans le simple but de faire des stages et de passer du temps chez des éleveurs. Donc j'ai d'abord été chez Dany Lahaye et puis ensuite chez des éleveurs qui s'appellent Régine, Dominique, Gisalberti, qui ont un bel élevage de lusitanien. Et c'est là que j'ai rencontré Réa. Et en fait, ils m'ont dit, écoute, on a lu ton projet de vie, ton projet professionnel. À l'époque, je voulais m'atteler aux chevaux qui présentaient des problèmes de comportement. Et ils m'ont dit, on a deux juments qui sont difficilement vendables, parce que extrêmement sensibles. Donc, si tu veux t'en occuper, ta carte blanche. Et il y avait Réa, voilà. Et là, j'ai découvert cet être exceptionnel et j'y suis allée avec mes gros sabots en disant « je vais te sauver », en gros. Hein. Et là, elle m'a scannée et très vite, elle m'a dit « t'as rien compris, c'est moi qui vais m'occuper de toi ». Et c'est devenu mon associé, c'est-à-dire qu'à l'issue du stage, il a fallu que je l'achète. Donc finalement, ils ont pu la vendre. Et elle m'a fait beaucoup travailler, sortir de mon moule. Parce que je me voyais à l'époque une grande cavalière de dressage, alors qu'en fait, c'était pas du tout finalement ce qui m'intéressait. Elle m'a fait sortir de ce moule.
C'est elle qui t'a montré ton vrai chemin.
En fait, c'est Réa qui m'a montré la voie de la liberté. Et avec elle, j'ai fait du travail à pied, j'ai rencontré les frères Pignon, j'ai découvert vraiment ce que c'était que le cheval, l'être cheval. Et en fait, c'était bien plus que ça. Et très vite, elle est décédée. On a eu un accident, toutes les deux. Et le lendemain de cet accident, elle est morte. Et là, j'ai cru qu'on avait arraché une partie de mon âme. Et je suis encore très émue quand j'y pense. Mais j'ai mis du temps à comprendre hein, pourquoi elle était partie si vite et pourquoi on me l'avait arrachée si vite. Et en fait, Réa n'était pas un cheval, mais c'était un prétexte pour entrer en relation avec moi, de prendre cette forme-là. Et Réa, c'est tout autre chose, c'est la déesse de l'esprit, enfin du peuple de la nature. Et Réa, aujourd'hui, c'est mon guide principal, c'est à elle que je m'en réfère chaque fois que je me mets en lien avec le vivant. Quand je fais mes stages, c'est elle qui m'accompagne aussi. Alors c'est rigolo parce que j'ai elle d'un côté, qu'on ne voit pas, et c'est le cheval de l'ombre. Mais qui est tout lumière quand même. C'est un être de lumière dans l'ombre. Et puis il y a Andalus, qui est un être de lumière et qui rayonne de mille feux à mes côtés. Voilà, j'ai deux associés.
Et Andalus, comment il est arrivé dans ta vie?
Alors ça, c'est amusant aussi parce que Réa l'a connu. Et quand elle est décédée, elle m'a dit « Mais ne t'inquiète pas, c'est un être de lumière incarné que tu dois avoir à tes côtés. Et moi, je continuerai à vous guider tous les deux. » Et Andalus, il est arrivé dans ma vie parce que à l'époque, j'avais des amis chez lesquels je filais un petit coup de main de temps en temps avec ses chevaux, avec leurs chevaux. Et il y avait notamment Andalus. Et ses amis, en fait, étaient en procès avec la vendeuse, la maquignonne qui leur avait vendu Andalus. Et il s'avère qu'ils cherchaient un cheval pour faire de la randonnée. Mais chaque fois qu'il montait sur son dos, il tombait par terre quand il demandait le galop et en fait il boitait. Et c'est un cheval qui a été très abîmé dès son plus jeune âge et qui n'était pas du tout en mesure de répondre aux besoins de ces gens-là. Du coup, ils ont fait un procès à cette femme et au bout de 2 ans, le procès n'en finissait pas. Et le cheval en fait sombrait et il était dans un état pitoyable. Et j'ai dit à ses amis, écoutez, arrêtez, c'est de la maltraitance, arrêtez ce procès parce que ce cheval va en mourir. Et à l'époque, je ne savais pas du tout que je serais avec lui aujourd'hui. Et ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on te le donne. Et je l'ai pris. Voilà.
Et comment le rapport s'est fait entre vous deux?
Alors moi, je lui ai dit, écoute, je te prends pour ce que tu pourras donner ou pas. Je te prends tel que tu es. Et petit à petit, c'est lui qui m'a mis sur la voie de la médiation animale, de l'équithérapie. Avec lui, j'ai fait l'équithérapie. Et là, je me suis aperçue que c'était un cheval guérisseur qui donnait le meilleur de lui-même. Tout ce qu'il pouvait donner, il le donnait. Et là, j'ai pris conscience que j'avais auprès de moi un être de lumière. Voilà. J'ai pris conscience aussi qu'il avait tellement besoin de reconnaissance, sans doute comme moi également, on avait les mêmes blessures, qu'il se donnait à corps perdu à un moment donné. J'ai un peu craint pour sa santé, donc j'ai stoppé aussi l'équithérapie pour cette raison-là. Aussi parce que j'ai beaucoup de boulot en tant qu'interprète animalière, mais je le préserve. Mais c'est lui qui m'a mis sur la voie de ce métier. C'est lui qui a inventé, en fait, mon métier.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'interprétariat de animalier?
Oui, communicante animalière consiste à faire le lien entre, comme un interprète en fait, hein, au lieu de traduire du chinois au français, je traduis de l'animal à l'humain. Et par ces informations qui m'arrivent, alors ça peut être des images, ça peut être... Alors je suis plutôt clairaudiente, donc en fait quand je me mets en connexion avec l'animal, je change de fréquence. Là, on est en train de se parler, nous sommes en fréquence bêta, mais si je me mets en lien avec l'animal, je suis en fréquence alpha ou theta, donc comme un état méditatif. Et quand je suis dans cet état de bien-être et cet état méditatif, alors je reçois, émanant de l'animal, des informations à travers mes canaux. Et on a plusieurs canaux, donc je peux avoir des sensations kinesthésiques dans le corps qui me donnent des renseignements. Mais en tant que clairaudiente, je n'ai plus qu'en fait à prendre mon stylo et mon carnet et j'écris ce que j'entends. Donc c'est des mots, des phrases, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux animaux domestiques? Les animaux qui nous accompagnent tous les jours, est-ce qu'ils sont là vraiment dans un but précis pour nous aider?
De mon point de vue et d'après mon expérience, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi une évolution, tant chez les humains que chez les animaux. Et aujourd'hui, les animaux qui nous accompagnent font vraiment le pont entre les êtres de lumière et les humains. Et on se désire de nous soutenir, Le but premier, c'est vraiment de planter la graine de l'amour en nous, pour nous aimer nous-mêmes et pour pouvoir percevoir le monde et les autres qui nous entourent avec amour finalement. Ils sont là aussi pour guérir nos blessures. Et puis pour réveiller la graine du maître qui est en nous, vraiment. Il nous pousse à grandir et à nous éveiller spirituellement.
Et les animaux sauvages ?
Je dirais que les animaux sauvages sont peut-être un peu plus en lien avec la planète. Je les trouve plus en lien avec la planète. Et quand moi je me connecte aux animaux sauvages, c'est plutôt à chaque fois la conscience collective de l'animal. Donc ça va être les dauphins ou les baleines ou même les gorilles, les éléphants. Et ce sont des messages peut-être plus philosophiques, plus profonds et qui nous invitent à une véritable éveil des consciences. Il y a urgence aussi.
Tu le sens dans leur... Quand tu te connectes à eux, ils sont oui. effrayés, ou pas effrayés, plutôt alarmistes.
Alors, oui et non, ça dépend des individus. Ça va dépendre aussi de mon filtre. Comment est-ce que je vais vers eux? Donc, s'il y a une part de moi qui est un petit peu triste, je vais recevoir la part de l'animal qui est inquiète pour la planète. Mais si ma part de joie est là, alors je vais avoir des messages assez joyeux et qui vont me laisser espérer que l'humain va se réveiller. Voilà.
Est-ce que tout le monde peut faire, enfin, rentrer en communication ? Est-ce que c'est possible pour tout le monde ?
Alors, j'aurais tout de suite envie de te dire oui, parce que ce sont des capacités naturelles qu'il faut retrouver. Ceux qui ont plus de difficultés, ce sont ceux qui ont beaucoup d'attentes, ou ceux qui ont ce désir de résultats coûte que coûte, ou quand on a trop d'impatience. Et puis, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé sur eux-mêmes, et qui doivent en fait... aller plus loin en termes de développement personnel, ce sera juste un peu plus long. Donc je dirais que c'est plutôt une histoire de rythme, de temps. Et comme je dis à mes stagiaires, quand on apprend à faire du vélo, on met d'abord des roulettes derrière et on essaye de trouver la posture juste pour tenir en équilibre. Et puis pas plonger à gauche, pas plonger à droite, pas tomber quoi. Et puis après on enlève les roulettes. Mais voilà, on va pas faire le tour de France tout de suite. Mais c'est en chacun de nous, bien sûr.
Comment ça se passe tes stages? En fait, tu expliques que ça va bien au-delà de la communication animale. On est tous reliés.
Oui, on est tous reliés. Je parle plus de communication animale, je parle de communication avec le vivant. Et dans ce vivant, bah, y a l'humain, au même titre que l'animal, que le végétal, que le minéral. Voilà. Et cette communication avec l'animal... Et là, je vois Andalouse qui me dit « Attention à ce que tu vas dire ». Pour moi, c'est un prétexte à se mettre en lien sur quelque chose de plus grand. Mais alors, je tiens,
qu'il arrive.
Je tiens à dire que je travaille en étroite collaboration avec lui et que quand même l'animal a une part importante puisque c'est lui qui va vous aider à vous mettre en lien avec vous-même, en fait.
Et l'animal donne beaucoup d'amour, donc on reçoit cet amour et ça nous permet de nous connecter aussi au vivant.
Oui. Alors en travaillant avec Andalouse, c'est vrai qu'il a cette capacité et faculté à me donner ce petit coup de main en débloquant ce qui doit être débloqué chez les stagiaires, en veillant quand même à leur rythme, hein. On ne va pas précipiter les choses. Mais il m'aide en fait à ouvrir les cœurs des stagiaires, puisque c'est une communication de cœur à cœur. C'est dans cet espace sacré du cœur qu'on se met en lien avec l'autre. Alors quand le cœur est tout engorgé ou bloqué, eh ben, c'est là qu'il intervient.
Là, tu es en train d'écrire un deuxième livre. On peut en savoir un peu plus ?
Dans ce deuxième livre, je parle de ces animaux, de l'amour de ces animaux au quotidien. Je parle aussi de ces animaux qui n'en sont pas. Je parle aussi des lieux, des végétaux. Également des artisans de lumière, des thérapeutes que j'ai pu rencontrer et dont je voudrais parler. Tous ceux, en fait, qui œuvrent pour la Terre. Voilà.
Est-ce que tu es optimiste?
Ah oui, je suis une grande optimiste. Et je me réjouis de vivre à cette époque. Et je n'ai jamais trouvé la vie aussi passionnante et aussi riche qu'en ce moment.
Même avec toutes les vies que tu as eues avant ?
Alors, en fait, j'ai appris que je n'ai pas eu de vie antérieure, mais j'ai simplement fait des immersions dans des vies parallèles. Et d'ailleurs, je parle de ça aussi avec les animaux, de ce que j'ai pu comprendre et percevoir. Et visiblement, ce serait ma première incarnation sur Terre, et peut-être même la dernière. Et ce que je croyais être des vies antérieures jusqu'à maintenant, ce sont des immersions temporelles dans des vies, temporaires dans des vies parallèles.
C'est ce qu'on parlait avec Agnès Thévenin.
Oui.
La
transcommunication, oui. Et Sylvain Didelot, en fait, en parle aussi très bien, d'ailleurs. Et c'est de ça dont il s'agit, oui. Ouais.
En fait, c'est un cercle, c'est pas une ligne.
Oui, il n'y a pas un espace linéaire. Et puis, parfois, je fais des incursions aussi dans des vies futures. Mais pas forcément sur Terre.
Dans tes rêves ou en méditation ?
Voilà.
En état méditatif.
Oui.
D'accord. Mais en tout cas, merci pour ce lieu que tu as créé, parce que c'est un lieu de paix, avec une reconnexion avec tous ces animaux. Mmh. Et on sent qu'il y a une énergie particulière.
Merci Corinne.
Merci à toi.
Là, c'est Paloma, Frida, et celui, et Pablo.
Pablo, il est noir et blanc. Et Paloma, c'est quoi comme race, en fait ?
Ben, je ne sais pas. En fait, nous habitons... Enfin, elle n'habite pas chez nous, c'est nous qui habitons chez elle.
D'accord.
Et quand on est arrivé sur ce lieu, les propriétaires nous ont demandé si on voulait garder les chèvres. Alors évidemment, moi j'ai dit oui. Et Paloma, c'est la maman des deux qui sont nés ici, en fait.
D'accord.
Voilà. Et je sais que les deux, ils ont à peu près 5 ans, les plus jeunes. Et donc Paloma doit avoir 6 ou 7 ans.
Et il est où le bouc qu'il a, le père ?
Eh bien, on ne sait pas. En fait, quand ils ont récupéré Paloma, elle venait d'un refuge et elle était pleine.
D'accord.
Et donc, ils se sont retrouvés avec les deux petits. Et on a gardé les trois.
Et tu leur ouvres parfois la barrière ?
Alors, ça, c'est le grand, grand sujet. Parce que comme elles considèrent qu'elles habitent chez elles, elles ne voient pas pourquoi elles ne mangeraient pas nos plantes. Et donc, elles ont fait un carnage. On a été en bisbille pendant un certain temps. Une fois, je me promenais avec mon rosier et je tenais fortement à mon rosier. Puis en plus, il symbolisait Sainte Rita avec qui je travaille. Et un jour, je sors mon rosier à la porte de mon bureau. Et Paloma arrive vers mon rosier, je lui dis « Paloma, si jamais tu touches une feuille de mon rosier, je te préviens, je vous enferme tous les trois pendant plusieurs semaines. » Et en fait, elle m'a regardée, elle a mangé une feuille de mon rosier, elle est partie. Et on n'a plus jamais pu rentrer les chèvres le soir comme on le faisait habituellement. Et de ce jour-là, ça a été donc infernal et elles ont mangé mais tout ce qu'elles pouvaient manger. Et donc on a dû faire venir une amie avec son chien de berger pour pouvoir rentrer les chèvres, parce qu'on allait faire une dalle en béton. Et on s'était dit, mais c'est pas possible, les chèvres, elles vont rentrer dans le béton, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on leur a fait un beau parc, un grand parc, et puis maintenant, on va leur couper des branches, tout ce qu'elles aiment manger. Ça nous demande plus de travail, mais ça nous permet aussi de végétaliser un peu plus la propriété. Mais on désespère pas, depuis que Yule est là, de pouvoir les ressortir à nouveau et puis, grâce aux chiens, les rentrer quand c'est possible.
Oui, parce que je vois il tourne autour, là, Yule.
En fait, c'est un chien de berger, à la base, et donc génétiquement, il a ça en lui. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de protéger, et si jamais il y en a une qui veut sortir, il va la bloquer. Et donc là, il ramène, si tu veux, le troupeau.
Oui, donc chez lui, il va pouvoir, certainement.
Voilà, c'est ça.
Effectivement.
Donc on a vraiment très envie qu'elle puisse ressortir, et qui puissent en fait les canaliser pour pas qu'elles viennent manger tout ce qu'il y a, toutes les fleurs autour de la maison.
Ça indiquera tous les endroits où il ne faut pas qu'elles aillent.
Voilà. En fait, elles peuvent aller partout, sauf autour de la maison.
Et comment elles le vivent là d'être enfermées? Qu'est-ce qu'elles te disent?
En fait, elles sont vraiment... ça, c'est l'avantage, je dirais, de l'animal. Et là, les chèvres aussi, elles prennent ce qu'il y a à prendre. Elles sont dans l'instant présent. Alors évidemment, elles aimeraient sortir, mais elles sont pas malheureuses pour autant. Et il y a même notre interaction avec elles et notre complicité avec elles ont été renforcées, si tu veux. Parce que pour compenser, on prend soin d'elles. Et pour autant, elles sont pas, c'est pas de la gratitude qu'elles expriment. En fait, elles me disent, mais c'est la moindre des choses. Ouais, voilà. Donc c'est amusant. Le rapport se construit au fur et à mesure. Et voilà, c'est très amusant. Et là, elles n'ont pas faim. Mais si jamais elles ont faim, bah, tu les entends, elles m'appellent en fait.
T'appelles au loin?
Oui, elles m'appellent au loin. Et s'il y a quelque chose, je sais que... Bon, j'ai pas besoin de rentrer en communication animale avec elles. Elles vont m'appeler et je vais le savoir, quoi. Ouais. On va aller voir les chevaux.
C'est intéressant ce que tu dis qu'il n'y a pas de gratitude, parce que nous les humains, on cherche toujours la gratitude ou la reconnaissance de ce qu'on fait. Mais en fait, comme tu dis, eux, ils sont dans l'instant présent, ouais. C'est juste normal, c'est la vie qui est comme ça en fait.
Ça. Ouais. Et lui, à un moment donné, je lui ai dit, écoute Pablo, si tu continues à agir comme ça, on va te donner. Non, d'abord, en fait, on l'a menacé. Et je lui ai dit, on va t'enfermer. Il m'a dit, je m'en fous. Alors on va te mettre au piqué, je m'en fous. On va te donner, je m'en fous. Et en fait, il est très fin parce qu'il savait que c'était des fausses promesses et qu'on était incapable de faire ça. Et ils nous sondent, ils savent très très bien qui nous sommes. Et avec mon compagnon, on a vraiment quelque chose à travailler, c'est poser des limites et le cadre. Et on ne sait pas, on est vraiment trop laxiste et on a tellement envie que les animaux soient en liberté que des fois, ben, c'est nous qui nous enfermons. Et on a dû mettre des barrières pour éviter de se retrouver avec tout le monde dans le salon, quoi. Parce qu'on s'est retrouvé avec les poules dans le salon, les chèvres dans le salon, voilà. Et en fait, ils viennent vraiment nous interroger sur nos limites. C'est très intéressant.
C'est clair.
Ouais, ouais. et Yule, comme par hasard, est un chien fugueur.
C'est clair. Et... Oui, voilà. Il a besoin de limites.
Et il a besoin de limites, de cadres. Si jamais il provoque un accident, c'est nous qui sommes responsables. Et ça vient aussi nous interroger sur notre responsabilité. Enfin, voilà. C'est mon frère jumeau. Une partie de moi. Voilà. Et Kélous. Alors c'est amusant pour la petite histoire andalouse. Quand il est arrivé dans ma vie, il s'appelait Dominante. Et la première chose qu'il m'a demandé, c'est de changer son nom. Sauf qu'il ne m'a pas dit quoi exactement, alors il m'a mis sur la voie, donc il m'a montré tout de suite la lumière. Alors j'étais là, la lumière, alors une bougie, une lampe, etc. Bon bref, ça a mis un certain temps. Puis après il m'a mis sur la piste aussi, il m'a dit d'où je viens. Je lui ai dit d'Andalousie. Bon bah alors, et puis il y avait, voilà, très vite, Andar, marcher, aller, et Luz, lumière, voilà, donc Andalous. Et quelques années plus tard, une amie éleveuse m'a dit, écoute Peggy, je t'en supplie, est-ce que tu voudrais pas récupérer Kélous? C'était une jument qu'ils avaient, qui était en piteux état et qui supportait plus d'être à l'élevage. Et elle s'appelle Kélous, en fait. Quelle lumière! Et c'est un hasard? Enfin, un hasard. Hein? C'est rigolo, hein?
C'est plutôt marrant.
Ouais, c'est marrant.
Puis elle est marron et lui, il est blanc.
Oui.
Tacheté.
Truité.
Truité. Bonjour.
Il était beaucoup plus... Beaucoup plus truité, en fait, avec l'âge, il blanchit. Tous les chevaux comme ça blanchissent avec l'âge. Et quand je l'ai récupéré, il n'avait pas du tout de crinière. Il était vraiment en piteux état, moralement, psychiquement. Depuis, il est devenu très très beau. Et tous les deux, quand je les ai récupérés, ils n'avaient pas un poil sur le caillou. Et puis maintenant, voilà, ils sont épanouis et ils rayonnent. Il aime beaucoup les humains, il est toujours en interaction avec les humains. Il va venir te scanner, te sentir, et des fois il peut se poser là devant toi, et il reste parfaitement immobile, et vraiment connecté à la fréquence de ton cœur, et voir s'il y a quelque chose à faire, il fait.
C'est un guérisseur.
Oui, ouais.
Et là, c'est Kélous. Tu as deux chevaux, alors?
Oui, on a deux piliers. Ici, il peut y avoir plusieurs chevaux, parce qu'il y en a des fois qui sont en transit, qui sont en restauration, qu'il faut remettre un petit peu d'aplomb. Donc, il y a tout le temps des chevaux qui viennent pour une durée indéterminée de quelques mois. Mais les deux piliers de la ferme, c'est eux deux.
Et comment ils s'entendent tous les deux ?
Très bien, mais ils sont très différents. Et autant Andalou, c'est très en interaction avec l'homme. Elle, elle est plus distante avec l'homme. Et elle fait un travail assez, assez profond, vibratoirement, par rapport au lieu. Et elle a une connexion par rapport... comment dire, à l'environnement, qui est très forte. Parfois, elle peut paraître un peu autiste et un peu absente. Et elle est absente, elle est même hors de son corps, en fait. Il y a ces corps subtils qui sont un peu plus loin, et qui sont voilà, totalement en connexion avec le tout. Et quand on s'approche d'elle, du coup, je suis obligée de me mettre en lien dans le subtil avec elle en lui disant « je vais venir vers toi, je suis en train de venir vers toi, je suis arrivée, je suis là », de manière à ramener ses corps subtils dans son corps physique. Sinon, elle peut avoir très peur et être surprise. Donc c'est une jument assez particulière.
Et en fait, elle recharge les énergies d'ici ?
Alors en fait, elle... alors il y a des animaux qui n'en sont pas. Il y a des animaux qui, enfin, il y a des êtres subtils qui viennent expérimenter une incarnation. Ils pourraient très bien choisir l'humain, mais ils peuvent aussi choisir l'animal. Et elle, c'est comme si elle expérimentait l'être cheval pour la première fois. Du coup, c'est pas toujours simple pour elle d'être cheval et de se comporter cheval. Et quand je me connecte à elle, ce que je ressens, c'est une espèce de membrane vibratoire autour de la terre. Donc elle est connectée, c'est un être multidimensionnel qui n'aurait pas de forme reconnaissable ou qui, tu vois, qui nous évoque quelque chose, quoi. Et elle agit vraiment, comment dire, dans ce qu'elle m'a expliqué, ce qu'elle fait, c'est que pour elle, ce qui est important, c'est que le lieu où elle vit, qu'elle le mette à l'unisson de la vibration, de sa vibration originelle. Et donc, elle va déjà importer des informations du lieu dans lequel elle vit à sa source. Et en fait, de sa source, elle va exporter des informations vibratoires qu'elle va importer sur le lieu. Et donc, en fait, elle va travailler sur la fréquence vibratoire du lieu dans lequel elle vit, elle. Et dans l'élevage où elle était précédemment, elle disait qu'il y avait vraiment trop de travail et que c'était compliqué pour elle et elle a perdu la santé, en fait.
Elle s'est épuisée.
Elle s'est épuisée et vidée d'énergie, de son énergie. Ouais.
En fait, c'est comme si c'était un être qui venait d'une autre galaxie, oui, et qui venait reconnecter la Terre avec les galaxies.
C'est ça. Et qui vient en fait informer son plan d'origine de ce qui se passe sur Terre, en fait. Donc à travers les endroits qu'elle fréquente. Ouais.
Wow.
Voilà.
Fabuleux. Hein.
Oui. Donc elle peut paraître assez surprenante ou pour certains un peu dangereuse quand on ne connaît pas. Plus maintenant, hein, elle s'est vraiment adoucie, protégée. On a fait aussi un travail vibratoire sur le lieu, en médecine de l'habitat, en vase tout en fait. Et depuis qu'on a fait ce travail, le lieu a encore monté en vibration. Et du coup, elle me dit, je n'ai plus à faire ce que j'avais à faire. Puisqu'en fait, ça s'est aligné en quelque sorte sur son plan d'origine. Et du coup, elle s'est apaisée, elle est calme, elle est sereine là maintenant.
Elle n'a plus qu'à être.
Elle n'a plus qu'à être, voilà. Donc c'est très doux pour elle, ouais.
Et quand tu l'as rencontrée, tu as senti tout de suite ça ?
Non, j'ai pas su tout de suite. J'ai été confrontée vraiment à d'énormes difficultés avec elle. Hein. J'ai vraiment tâtonné, il a fallu que je me pose et que je rentre moi dans mon être profond pour savoir qui elle était. Au départ, j'avais une approche, j'étais dans l'observation, et une approche assez superficielle, voilà.
Et elle, par exemple, Andalouse, tu crois qu'elle peut l'aider aussi ou...
Ils s'aident mutuellement, ouais. Ils se soutiennent mutuellement. C'est deux énergies différentes, mais complémentaires. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'ils soient tous les deux. Par contre, il n'est pas toujours agréable. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être espagnol et qu'il vient d'Andalousie. Mais alors, très, très honnêtement, c'est un macho.
Oh non, ça ne m'allège pas.
Voilà, c'est ça.
Non, Andalou, c'est pas ça.
Non, mais je plaisante. Mais quand même, voilà. Hein, quand il y a la gamelle, par exemple, il n'y a plus de copines. C'est lui en premier, voilà. Bon, alors c'est le mâle.
Et comment elle réagit, elle, par rapport à ça?
Elle laisse tomber. Oh. Elle est comme une femme, en fait. Elle se dit, oui, bon, allez.
Elle sait qu'elle aura d'une autre manière.
Ouais, mmh. C'est ça, ouais.
Pour l'instant, ils sont que tous les deux ici. Et quand il y a des chevaux qui viennent se réparer, est-ce que tu vois qu'ils vont avoir une attitude particulière avec ces chevaux ou...
La dernière fois, c'était exceptionnel, mais oui. Ils sont là pas que pour guérir l'être humain, mais quand il y a d'autres chevaux qui viennent, ils s'en occupent. Et il y a eu une belle métamorphose d'une petite jument qui s'est révélée à elle-même ici. Et les animaux, c'est comme les humains. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu arrives... En fait, tu ne connais pas immédiatement ton plan d'incarnation, ta mission. Tu es là et tu expérimentes la vie. Voilà. Jusqu'à ce que tu comprennes finalement qui tu es dans ton essence, ce que tu as à faire sur cette terre, etc. Et en fait, pour les animaux, c'est pareil. Ils ne savent pas réellement qui ils sont et d'où ils viennent au départ. Et cette petite jument, peu à peu, elle s'est révélée une excellente guérisseuse. Et c'est Andalus, en fait, qui l'a initiée. C'était beau. C'était vraiment très beau.
Et par rapport à Yule, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui est un chien un peu fugueur, qui se cherche, ils ont quelle attitude?
Alors, déjà, l'histoire de Yule, c'est rigolo parce que Andalus m'a dit, écoute, là, maintenant, il faut vraiment qu'il y ait un chien sur le lieu. Parce que ce chien aura pour rôle de faire circuler l'énergie entre le bas et le haut du terrain et éviter qu'il y ait des points morts d'énergie, hein, si tu veux. Et quand il m'a dit ça, en fait, le lendemain, mon ami vétérinaire m'a appelé en me disant « Écoute, j'ai trouvé un chien, interroge-le, regarde. » Et c'était lui. Et quand il est arrivé ici, c'est juste extraordinaire. En fait, ils se sont parlé et ils se sont mis à se caresser, à se groomer. En fait, les chevaux se grooment entre eux, se gratouillent, etc. Et là, Yule a eu cette attitude avec Andalus. Et d'ailleurs, Yule et Andalus ont une relation qui est très différente d'avec Kélous. Et avec Kélous, par contre, ça colle pas, ça passe pas du tout. Donc, ils se connaissaient visiblement, et Andalus avait capté, senti que ce chien-là allait arriver, que c'était lui. Et il est arrivé au solstice. Donc, il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc, on l'a appelé Yule, puisque...
Le solstice.
Voilà. C'est la fête du solstice.
Et c'est la lumière, le retour de la lumière aussi.
Et c'est le retour de la lumière. C'est génial, hein?
Oui.
Ouais. Et le petit chat que vous avez vu tout à l'heure, Sol, c'est en fait Soleil. Mm. Voilà, il vient de l'élevage de Sabran, Soleil de Sabran. Et c'est vrai qu'ici, on a appelé aussi notre association Terre de Lumière. Et c'est vraiment une terre de lumière. Et quand les stagiaires viennent, là, c'est ce qu'ils ressentent. Ouais.
On sent l'apaisement.
Oui.
Et le fait que ça soit sur une colline, qui est vraiment de l'espace, une vision, c'est fabuleux. Donc le Mont Ventoux, les Alpilles et le Pissarlik.
Les Alpilles, elles sont là. Ensuite, un peu plus loin, mais on ne le voit pas très bien, c'est le Vercors. Le Mont Ventoux, ouais. Et puis après, là-bas, au nord, tu vas avoir les Cévennes. Et puis après, bien sûr, le pic Saint-Loup et l'Ortus, ouais.
Et là, c'est les Alpes au loin.
Oui. Ouais, ouais.
Comment tu as trouvé ce lieu?
En fait, j'habitais à Uzès et ça fait 4 ans que je cherchais désespérément un terrain pour vraiment créer ma ferme et relier les humains, à leur propre nature, en les mettant en contact avec la nature. Et je trouvais pas, et Uzès était très cher. Et je me souviens, c'était un 22 décembre, et là, je me suis mise à pleurer, mais je crois que j'ai pleuré toute la journée. Et j'ai dit à mon compagnon, il faut qu'on arrête de chercher dans l'usage, on ne va pas trouver. Il faut se délocaliser, regarder un peu plus loin. Et ce jour-là, je regarde un site que j'avais fréquemment regardé, et un peu plus loin, et là, je trouve ce terrain ici, donc du côté de Nîmes. Et je montre ces images-là à mon compagnon, et il me dit, oh, je sais où c'est. J'adore ce coin, j'y suis allée et je me suis promenée plusieurs fois. Regarde ces photos, il avait fait des photos de cette colline. Un jour où il essayait une moto en fait. Et avec sa moto, en fait, il est monté jusqu'à l'impasse, jusqu'ici, il a fait son demi-tour devant le portail. Donc il a reconnu où c'était. Ce qui nous a permis d'arriver directement le jour même
chez les propriétaires qui avaient mis en vente sur ce site 5 jours avant, en fait. Juste 5 jours avant. Et quand on y est arrivé, c'était une évidence. Et le lieu, on l'a reconnu, on s'est reconnu, une évidence. Et en fait, cette connexion que j'ai avec les animaux, je l'ai avec le lieu et les végétaux. Et donc là, évidemment, tout est arrivé. Toutes les informations sont arrivées. Et il fallait, le lieu n'était pas prêt, j'étais pas prête, mon compagnon n'était pas encore arrivé dans ma vie. Il fallait que tout ça soit réuni pour qu'on arrive ici. Voilà. Et tu vois ici, j'aimais pas le vent.
Oui.
Et d'ailleurs, les chevaux, en principe, n'aiment pas le vent, mais ils se sont quand même habitués. Et moi aussi. Et le vent, je le perçois vraiment comme un élément qui te nettoie, comme l'eau. Et depuis qu'il y a du vent, je me dis, ah bah chouette, aujourd'hui, ça va être une grande journée de nettoyage. Et le fait de le percevoir comme ça, bah j'adore.
C'est vrai. Oui, la pluie aussi, ça se... La pluie, tu le ressens comme ça aussi, comme du nettoyage?
Ah ben, j'ai toujours adoré la pluie. Oui, ouais. Et je suis un petit peu malheureuse dans le midi. Pour moi, il pleut pas assez. Donc, dès qu'il pleut, je me réjouis.
Et là, tu proposes donc la communication animale. Qu'est-ce que tu proposes comme stage ici?
Alors, je l'appelle pas communication animale. Oui. Parce que pour moi, la communication animale, c'est un prétexte à une ouverture beaucoup plus large de connexion avec le vivant. Alors les animaux vont beaucoup nous aider, mais je propose aussi cette connexion aux végétaux, aux lieux, aux élémentaux, à tout ça quoi.
Ça fait quoi? Ah pardon. Là il t'a montré qu'il voulait être détaché, non? Qu'est-ce qu'il a?
Non, il y avait juste son licol qui le gênait. Ah oui. Et puis c'est aussi des stages finalement de développement personnel parce que on fait partie du vivant. Et pour rentrer en connexion le plus juste possible avec l'autre, c'est une connexion vraiment de cœur à cœur. Il faut, je dis en fait, on rentre en amour avec l'autre. Et donc si on n'est pas en amour avec soi, eh bien la relation à l'autre, elle n'est pas juste. Donc c'est ça qu'on aperçoit.
Il te dit de le défaire?
Alors, il me dit de le défaire, là, c'est bon. Mais c'est pas ça qu'il me dit. La semaine dernière, il y a 2 réalisateurs qui sont venus pour un projet spécifique où, en fait, il était vraiment à l'honneur. Et à chaque fois, c'est lui qui parlait. Et en fait, là, il voudrait que ce soit aussi le cas. Mais bon, moi, ça me fatigue aussi oui. Énormément.
Ah, et c'est le mal alpha, quand même.
Et en fait, il a envie d'être... ça lui plaît aussi d'être interrogé, d'être à l'honneur.
Alors, est-ce qu'il veut nous dire un truc pas trop fatigant pour toi? Qu'est-ce que tu veux nous dire, Andalous? Moi, je veux bien t'interroger. Hein.
En fait, il me dit là, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si je minimisais un petit peu la présence de l'animal et l'importance de l'animal. Voilà. Et en fait, il me disait que quand même si c'était pas de la communication animale telle que moi je l'entends, ils avaient quand même une place importante et lui, dans mes stages, a une place très importante. Parce qu'il œuvre avec moi en tant qu'associé et très souvent, quand c'est nécessaire, il fait un soin aux personnes. Et ce soin, c'est vraiment de l'ordre de l'ouverture du cœur. Et en fait, les personnes arrivent avec beaucoup de voiles il y a des résistances et des blocages, et cette communication et ce lien avec le vivant se fait difficilement. Et lui, il va en fait enlever des voiles ou donner des clés pour ouvrir un canal, 2 canaux, voilà, tu vois. Et là, il rouspétait un peu parce qu'il disait, oui, bon, je suis là.
Il a raison.
Il a raison.
On l'a entendu.
Non. Le fait que je lui mette le licol pour le monter, si tu veux, il n'apprécie pas trop parce qu'il y a, il y a une perte d'équilibre. Hein, tu vois, on n'est plus dans l'équité. C'est-à-dire que je viens montrer qu'il est un peu sous ma coupe et ça ne lui plaît pas trop.
Et pourquoi tu l'as mis le licol, justement?
C'était pour qu'on puisse monter vraiment en même temps. J'étais pas sûre qu'il nous suive.
Ok.
Voilà, puis c'était pour lui montrer le chemin, la voie, en lui disant...
On va par là.
Ouais.
D'accord. Enfin, Yule, il est quand même parti.
Donc maintenant, je garde un œil et je le rappelle régulièrement et je le félicite quand il reste à côté. Voilà.
C'est un vagabond.
Il est tête en l'air aussi. Alors oui, lui, quand je me connecte à lui, je le vois pas sur le sol. Il est hors du sol. Il plane. Mais un peu comme les enfants. Où quand tu leur dis, bon, on mange, puis ils viennent pas, mais c'est parce qu'ils sont dans leur monde, en fait. Voilà, donc là, on est dans un espace que j'aime beaucoup, qui est très doux, très apaisant, et en fait, il y a beaucoup de monde. Donc
on doit leur demander si on peut venir.
T'as pas besoin de demander, parce qu'ils adorent. Et là, tu vois, j'avais un stage ce week-end, et un le week-end dernier. Et ils sont tellement heureux d'être reconnus, de servir à quelque chose. Alors là, quand je te dis eux, c'est surtout ce collectif des pins, ces arbres-là. Aussi les élémentaux, parce qu'il y en a. Et le simple fait d'être reconnus, ça leur permet de vivre et de sentir qu'ils ont une importance. Et ils ont envie de donner. Donc tu reçois ici, tu reçois énormément, tu reçois des soins, tu reçois des messages, tu reçois tout ça. Et il y a aussi des zones, tu parlais de portails énergétiques. Donc en fait, il y en a qui se sont, depuis qu'on est là, activés et qui ne l'étaient pas avant qu'on arrive. Voilà. Je vais vous montrer un peu.
C'est vrai qu'on dirait qu'on est dans un autre lieu. C'est une autre atmosphère, effectivement.
En bas, c'est un lieu qui en bas, près des chèvres, qui est plus yin, qui est plus déroutant aussi. Ça peut te donner la nausée, tu peux avoir des vertiges. Et c'est un endroit propice au nettoyage. Alors qu'ici, c'est plutôt un endroit où tu vas t'ancrer et te reconnecter à toi, à la terre, au sol. Donc tu peux avoir cette sensation de vaciller comme un roseau, si tu veux, quand il y a du vent, mais tu vas sentir ce lien ferme avec la terre. Alors qu'en bas, tu pourrais presque tomber. Donc c'est très intéressant, cette différence d'énergie entre... Et il y a un côté très protecteur des arbres, très soutenant, très, très paternel, en fait.
Les pierres qui sont au sol, elles ont été mises comme ça, en fait. On dirait un petit chemin.
En fait, de temps en temps, on organise des journées avec nos stagiaires ou les adhérents de l'association. Et on écoute ce que les arbres et les lieux demandent. Et en fonction de leurs demandes, on se met à l'œuvre. Donc chacun a des outils de jardin, on va... élaguer, nettoyer, mettre les cailloux, tu vois, dans une disposition particulière. Et voilà. Et puis après, on mange tous ensemble. Et puis après, l'après-midi, alors la dernière fois, on a fait une farandole musicale pour les elfes. Et ensuite, on s'est connecté aux êtres de la nature. Il y a sur le lieu deux dragons, en fait. Et ici, il y en a un dragon de la terre qui se faufile. C'est intéressant parce que quand les gens arrivent ici, au départ, ils sont un peu décontenancés, ils ne ressentent pas trop parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en contact avec son corps. Mais quand on commence à être vraiment à l'écoute de son corps, on perçoit les énergies et les vibrations. Et ça se fait progressivement. C'est juste aussi une histoire de conscience, de pratique, d'habitude. Et en fait, dans un exercice, on passe une heure ici. Mais c'est pas pareil la deuxième demi-heure que la première. Yule, tu restes avec nous, hein? Oui, c'est bien. Et c'est un chien qui aboie pas.
Oui. Ben, je suis contente.
Mais parce qu'il n'a pas besoin d'aboyer, parce que tu le comprends.
Je ne m'étais pas posé la question dans ce sens-là, mais c'est vrai que je craignais d'avoir un chien qui aboie. Mais non, en fait, quasiment jamais. On a, je pense, en un mois et demi, entendu 3 fois le son de sa voix.
Voilà, là, c'est un cercle.
Là, j'appelle ça ma cabine téléphonique. C'est là où, si j'ai des communications à faire en extérieur, je me pose et puis j'ai l'information qui arrive tout de suite. Alors, moi, je pense que c'est aussi propre à mon énergie, parce qu'en fait, tu as des lieux qui vont répondre à l'énergie de chacun. Et c'est mon espace de repos, de tranquillité, de... Voilà. Et il n'y a pas de... Alors, il y a une cheminée tellurique, là, quand même. D'ailleurs, ça se voit, en fait. Hein. Tu peux juste observer, il n'y a pas de végétation qui pousse à l'intérieur.
Donc, quand tu as besoin d'avoir des réponses vis-à-vis de toi-même, tu viens ici?
Alors non, c'est quand je me pose pour communiquer avec les éléments, ici notamment, dans ce lieu, ben c'est là que je me mets, ouais. Mon espace de sieste, de connexion, de repos. Avec moi-même, il y a d'autres endroits. Celui-ci en fait partie, mais il n'y a pas que celui-ci. Je vous montrerai notre botte secrète, c'est notre chaîne.
Le patriarche.
Voilà, voilà. On a mis un certain temps avant de le trouver. Au départ, je cherchais un lieu et le chêne faisait partie de mes critères de sélection. Et puis, quand on est arrivé ici, j'ai dit « Oh, c'est que des pins, il n'y a pas de chêne, c'est dommage, mais tant pis, tout est tellement extraordinaire autour. » Et au bout de quelques mois, c'était pendant un stage, j'ai dit au stagiaire « Écoutez, laissez-vous guider et laissez un arbre vous appeler. » Et mon compagnon, je le vois partir et descendre la colline. Enfin, et en fait, il a été appelé par le chêne. Et le chêne lui a dit, écoute, il faut que tu m'accordes du temps, dégage-moi. Et ce chêne, il était rempli de lierre, et on ne le voyait pas du tout, en fait, on ne pouvait pas le voir comme ça. Et il m'a dit, regarde ce que j'ai trouvé, il est là. Et on a passé du temps, on était dans lui, et on l'a dégagé, et c'est un arbre maître, en fait. Alors là, c'est surtout mon compagnon qui va faire ses soins là-bas, puisqu'il soigne l'humain et il aime bien s'y poser. C'est sa cabine téléphonique principale. Et moi, j'y vais aussi pour méditer, me ressourcer.
Il soigne comment, ton compagnon? Par l'énergétique?
Alors, donc il a pris le relais. Je ne fais plus de soins à l'humain, moi, et c'est lui qui... En fait, il laisse faire les choses comme elles doivent se faire. Les personnes viennent le voir, et pour une problématique en particulier, donc... Ok, en lien avec cette problématique, il va se connecter à la personne. Et puis là, il va commencer à avoir des informations, des images. Donc c'est un être canal, en fait. Il reçoit l'info. Et en plus de l'info, eh bien, il y a vraiment un soin qui se pose, énergétique. Ouais. Je l'appelle le spécialiste du féminin, parce que c'est assez étonnant. À chaque fois, il tombe sur des personnes où le féminin a été vraiment mis à mal. Et il restaure ce féminin. C'est très beau. Voilà. Ah, je vais vous montrer le petit nid en pierre.
C'est une végétation un peu de maquis ici.
C'est beaucoup de... Alors il y a genêt, ciste, là c'est du ciste, pin, sapin. Et alors c'est pour ça qu'on a aussi mis les chèvres, laissé les chèvres dans leur parc, parce qu'on a planté d'autres essences. Pour l'instant on ne voit pas, c'est des petites tiges. On a planté aussi des arbres, des fruitiers. Yul. Et puis il y avait vraiment cette idée aussi, tu vois, tu me demandais les arbres, pourquoi au pied des arbres il y a des cailloux, et c'était aussi pour porter une attention toute particulière à chacun d'entre eux. Et des fois dans les arbres aussi tu vois un petit objet, une médaille ou... et c'est l'idée, c'est vraiment de reconnaître l'arbre. Et une fois avec Andalous, j'étais sur son dos là, à cru, c'était vraiment génial. On a passé une journée à s'arrêter devant chaque arbre et à dire « je me pose là, je te vois, je te reconnais, je te remercie ». Et c'est extraordinaire en fait, hein, de prendre cette conscience-là, quoi, de reconnaître en fait chacun. Et ça, ça leur fait plaisir.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment comme des frères d'âme, quoi. Enfin...
On dit même qu'ils ont une conscience supérieure à l'homme, parce qu'ils sont là depuis longtemps,
ouais.
Ils sont liés, reliés.
Complètement, parce qu'il faudrait que je retrouve là les notes. D'ailleurs, dans le deuxième livre, je vais en parler de ce que le chêne m'a partagé sur ce qu'ils font et cette connexion qu'ils ont les uns avec les autres. Et en fait, ils viennent aussi pour... ils contribuent à cette grille cristalline, à l'activation de cette grille cristalline autour de la Terre. En étant en lien, il me dit qu'en fait, il peut être en lien avec des arbres à l'autre bout de la planète. C'est extraordinaire. Et nous, ben, on rame encore hein, pour faire ça en tant qu'humain. Kélouz, par contre, je la monte un peu en dressage. Donc, c'est ma piste de dressage. Et lui, plutôt en balade. Alors, j'ai fait venir une saddle feeder pour qu'ils aient une selle chacun, etc. Et en fait, lui, il m'a dit, mais même pas en rêve. Et j'étais prête à acheter une super selle où j'étais confortablement assise. Il m'a dit, mais je ne veux pas entre toi et moi de selle. Alors, il m'a fait juste acheter un petit tapis de Montacru. Il veut me sentir sur son dos, il veut pas qu'il y ait une interférence. Mais je lui dis, écoute, t'es gentil, mais en balade, déjà, c'est pas pratique pour monter dessus ou descendre. Et à chaque fois, il faut que je trouve un caillou parce qu'il est grand. Mais bon, ça va, il bouge pas. Je peux mettre 10 minutes pour monter sur son dos et ça va. Et par contre, quand il est un peu apeuré ou quoi que ce soit, je tiens moins bien qu'avec une selle, c'est sûr. Et là, c'est mes petites poules.
Alors, Yule, tu les attaques pas les poules quand même?
Ah bah si, il y a eu un accident.
Ah, il en a, ouais. Elle se méfie, là, elle regarde. Elle s'en inquiète.
La plus bavarde, c'est Baraka, que j'adore. Et c'est une rescapée, en fait. Parce qu'au départ, on avait 3 poules. Et puis, il y a 2 chiens errants qui sont rentrés et qui en ont tué 2. Et Baraka, qui s'appelait pas Baraka, d'ailleurs. Elle s'appelait Jacotte. A été rescapée et depuis elle travaille beaucoup avec les stagiaires et elle raconte son histoire. Elle est très fière de raconter comment elle s'en est sortie, que c'est la rescapée, que depuis elle s'appelle Baraka parce qu'elle a de la chance, etc.
C'est la marron ?
C'est la noire.
La noire ?
Ouais. Et ensuite, comme elle était toute seule, quelques mois plus tard, on a racheté une blanche qui a demandé à s'appeler Sylphide. Et cette blanche, en fait, elle a été tuée par Yule. Il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, là, Baraka, elle a vraiment accusé le coup. Ça a été compliqué pour elle. Et on est allé vite chercher donc, la grise et la rousse qui sont arrivées il n'y a pas très très longtemps. Et qu'on n'a pas encore nommées. Parce qu'on attend de les connaître et j'attends de me mettre en lien avec elles pour savoir comment elles veulent s'appeler, qui elles sont, dans leur essence, etc.
Tu ne te mets pas tout de suite en lien avec les animaux ?
Pas forcément. Oui. Puis alors très honnêtement, je travaille beaucoup pour les animaux des autres et des fois là, avec les miens, ben, je prends du temps. J'ai besoin de plus de temps. Et puis il y a aussi que j'ai besoin d'avoir un rapport, j'allais dire, tout à fait lambda. Et j'ai besoin aussi de percevoir mes animaux comme des animaux et pas tout le temps rentrer dans l'âme de ces derniers.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé ? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.